Je ne sais pas. C'est le thème sur lequel je suis invité à émettre quelques idées ce matin devant nous. C'est inconfortable pour le président d'une association qui, aux yeux de ses militants, ne doit pas être habité par le doute. La pirouette que j'ai trouvée pour échapper à l'accusation de forfanterie est de dire que tout ce que nous affirmons est vrai jusqu'à preuve du contraire. Plus sérieusement, c'est évidemment m'inviter à questionner les engagements de la CIMAD, mouvement que j'ai l'honneur de présider depuis juin 2018, engagements qui ont marqué son histoire comme engagement aujourd'hui. Ce mouvement qui a 80 ans aujourd'hui a des racines protestantes. Son objet social est celui de l'accompagnement des personnes étrangères dans la défense de leurs droits, de leur dignité, la résistance aux lois et aux pratiques qui stigmatisent, qui excluent, qui humilient, et le témoignage au soutien de l'interpellation des pouvoirs publics et de l'opinion. Avant d'évoquer la question du doute, de l'erreur, de l'aveuglement idéologique, du fourvoiement politique ou du non-engagement que suggère la question posée, je vais parcourir rapidement quelques pages de l'histoire de ce mouvement pour vérifier si le doute a pu habiter les militants d'alors et de quelle manière ils l'ont dépassé ou intégré dans leurs actions. L'histoire commence en 1939, dans les camps de Gurs, Rivesaltes, Rieucros, Ressemédou, Prince, Nexon. Les premières actrices de la CIMAD, car ce sont des femmes qui ont créé la CIMAD, réussissent à imposer leur présence dans ces camps pour être auprès des détenus et leur apporter un peu de secours spirituel, intellectuel et matériel. Une petite anecdote, pour rentrer dans ces camps, ça n'était pas très simple, et Madeleine Barreau, qui est la première animatrice de la CIMAD, est arrivée un jour avec des sacs de layettes parce qu'il y avait des naissances dans le camp, et là, évidemment, les gardiens ne pouvaient pas l'empêcher d'entrer, et c'est ainsi qu'elle s'est imposée et qu'elle a imposé la CIMAD dans les camps. Déjà une interrogation naît de cette démarche. En entrant dans les camps, ne cautionnait-on pas leur existence? À cette question, s'en est ajoutée une autre, très angoissante, à partir de 1942, lorsque les équipes confrontées aux déportations massives de juifs dans ces camps tentent d'arracher ces malheureux à leur sort funeste. En plaidant pour les uns, sans pouvoir plaider pour tous, on opérait de ce fait un choix terrible qui se prolongera ensuite dans l'organisation des filières vers la Suisse avec des faux papiers. L'engagement de la CIMAD dans la guerre d'Algérie et les différentes actions entreprises amèneront d'autres questions. Jacques Beaumont, secrétaire général de l'époque, montre toute l'ambiguïté apparente des choix qui furent faits alors. Je cite « Les accusations de compromission viennent de toutes parts. Compromission à droite, car nous avons des amis parmi les colons. Compromission avec l'armée, car nous travaillons dans des régions entièrement quadrillées par l'armée et sur les territoires des SAS. Compromission à gauche, du côté des rebelles, car nous vivons en amis au milieu des familles dont les fils sont au Djebel. Cette compromission dont nous souffrons doit être acceptée comme l'une des conditions de notre présence et de notre travail en Algérie. Nous souhaiterions que cette difficulté soit comprise et partagée, car nous avons grand besoin d'être soutenus et éclairés à chaque instant pour rester lucides et discerner, si cela est possible, les limites à ne pas franchir. La suite montre que la CIMAD, loin de s'inscrire dans une logique partisane, reste fidèle à ses origines, alors qu'elle manifesta sans ambiguïté son choix d'être auprès des partisans de l'indépendance de l'Algérie. Elle apporta, après 1962 et les accords d'Évian, son aide aux harkis, ces exilés victimes à plus d'un titre de cette guerre de décolonisation. Elle sera également présente dans les camps des personnes dites rapatriées d'Indochine après les accords de Genève de 1954. Et elle dénoncera sans relâche les conditions déplorables réservées à ces populations victimes de l'histoire, du racisme, de la méfiance et de l'oubli. Si l'accueil des réfugiés latino-américains dans les années 70, au temps des dictatures, ne posait pas de problème de conscience ni de déchirement politique, parce qu'il y avait à l'époque un consensus pour les accueillir, il n'en fut plus de même en France à partir de 1974, période de fermeture des frontières et d'abandon de la politique d'accueil des travailleurs migrants. La gauche arrivée au pouvoir en 81 demande à la CIMADE d'assurer une présence et un accompagnement juridique des personnes retenues dans tous les centres de rétention administrative que le gouvernement vient de créer. Or, la CIMADE était opposée à la création de ces centres. Fallait-il accepter la mission au risque d'être considéré comme complice de cette politique d'enfermement? La CIMADE fit le choix d'y aller, non seulement parce que c'était conforme à son engagement historique, mais aussi pour pouvoir témoigner et interpeller. En 2009, le monopole de la CIMADE est remis en cause par le gouvernement et la présence dans les centres de rétention administrative est ouverte à la concurrence. Depuis, la question de la poursuite de notre présence dans les CRA, centres de rétention administrative, fait débat à chaque renouvellement du marché. Devons-nous y rester ? Pas de doute, s'agissant de la présence auprès des personnes retenues, leurs demandes d'aide juridique sont fortes et les services que nous leur apportons sont réels. Mais la situation dans les centres de rétention se dégrade. La désespérance est extrême. Les projets gouvernementaux visent à augmenter les capacités d'enfermement, à allonger la durée d'enfermement, à créer de nouveaux CRA, à enfermer plus systématiquement les personnes destinées à être expulsées, à y enfermer des enfants contre l'avis des professionnels, médecins et psychologues, de sorte que parfois le doute s'installe et nos salariés eux-mêmes finissent par considérer la mission comme difficile, très difficile. C'est peut-être le moment de se poser la question « Pourquoi s'engager ?» Sartre écrivait dans le numéro 1 des temps modernes « L'écrivain est en situation dans son époque. Chaque parole a des retentissements, chaque silence aussi. Je tiens Flaubert et Goncourt pour responsables de la répression qui suivit la Commune parce qu'ils n'ont pas écrit une ligne pour l'empêcher. Cela n'était pas leur affaire, dit-on. La condamnation de Dreyfus était cette affaire de Zola. Pour Sartre, nous sommes condamnés à l'engagement. Selon lui, personne ne peut prétendre à la neutralité. Refuser de choisir, c'est choisir. La passivité, la résignation, l'indifférence sont des choix. Pour Albert Camus, patron du journal Combat, le témoignage est un véritable engagement parce qu'il est fondé sur la vérité observée. Emmanuel Mounier écrivait dans son livre Le personnalisme, « L'absolu n'est pas de ce monde et n'est pas commensurable à ce monde. Nous ne nous engagerons jamais que dans des combats discutables sur des causes imparfaites. Refuser pour autant l'engagement, c'est refuser la condition humaine. » À la CIMADE, l'engagement a ses racines dans la tradition de l'Église confessante créée en 1934 pour s'opposer au régime nazi et à une Église collaborationniste. Les thèses de Pomerol, adoptées en 1941, où sont repensés les rapports de l'Église avec l'État, posent les limites de l'obéissance à ce dernier et exigent le respect des libertés individuelles, la dénonciation de l'antisémitisme et la condamnation de la collaboration. Aujourd'hui, l'actualisation de ces thèses passe par le choix d'une société respectueuse de l'autre, de tous les autres. Il n'y a pas d'étrangers sur cette terre. L'humanité passe par l'autre. Eux, c'est nous. Ce sont des slogans qui ont été créés par la CIMADE pour dire dans quelle société nous voulons vivre. Respect des droits fondamentaux, respect des droits des personnes, respect de la dignité humaine, condamnation des politiques de maltraitance des étrangers que les gouvernements tentent de justifier par la lutte contre l'appel d'air, présenté comme un risque majeur et dont la pertinence est contestée par nombre de chercheurs. S'engager, c'est exister. S'impliquer dans la vie de la cité, c'est donner un sens à la vie. Tant que nous ne nous engageons pas, le doute demeure, l'inefficacité prévaut et la loi du plus fort s'impose. Réapparaît la question du départ, celle du doute, je ne sais pas. Car l'engagement n'exclut pas l'incertitude. S'engager suppose d'être convaincu que la cause que l'on défend a une valeur sociétale, incontestable, d'une part, et que nos choix stratégiques vont bien nous conduire dans la direction que l'on a préalablement définie. Deux sortes d'erreurs sont possibles. Faire reposer nos analyses sur des études sérieuses ne nous met pas à l'abri d'erreurs factuelles. Je crois, sans forfanterie, que nous sommes bien équipés à la CIMAD, nous avons le souci du sérieux nécessaire à nos études. Les témoignages que nous recevons des universitaires et de nos partenaires le montrent suffisamment. Néanmoins, l'erreur est toujours possible. Les erreurs de jugement, de stratégie, d'orientation politique sont d'une autre nature. Les choix effectués reposent sur des analyses intégrant de nombreux paramètres. Un choix stratégique est une prise de risque et on peut commettre des erreurs d'analyse. L'une des plus fréquentes procède de la crainte de ne pas aller dans le sens de l'histoire, de trop se distinguer des courants de pensée dominants, de s'isoler intellectuellement, professionnellement, socialement, amicalement. Le conformisme intellectuel est un écueil que connaissent toutes les organisations par le seul fait que la survie institutionnelle passe par la permanence de certaines postures. Elles fondent un lien de confiance avec les adhérents, les partenaires et même les interlocuteurs et mis à l'abri de l'aventure et de la déstabilisation. Personne n'est à l'abri de ces dangers, pas plus les intellectuels compagnons de route du Parti communiste qui ne condamnèrent pas les procès staliniens, ni les militants de l'anti-impérialisme américain qui considéraient que les boat people étaient des victimes nécessaires d'un socialisme en construction, ou encore que le régime castriste serait un modèle pour les démocraties sud-américaines. De telles erreurs d'appréciation sont de nature à freiner l'engagement, en particulier chez les jeunes. Ils n'ont pas le secours de la loupe déformante des idéologies, aujourd'hui obsolètes, pour s'engager sur le temps long. Ils sont en général assez critiques à l'égard de la classe politique, dont ils dénoncent les erreurs et les impuissances et ne conçoivent l'engagement que pour des causes consensuelles, humanitaires, sociétales. Ils attendent des actions concrètes à effet immédiat, refusent l'embrigadement partisan. Ils sont allergiques au compromis. Pourtant, la politique est l'art du compromis, qui suppose l'arbitrage entre éthique de conviction et éthique de responsabilité. Définir des objectifs n'est pas nécessairement incompatible avec une approche équilibrée des fins et des moyens. Il est vrai cependant que certains choix peuvent être périlleux. Décider de mener un combat contre un gouvernement, une municipalité, un organisme public, sur des causes qui nous semblent justes, peut entraîner la perte de subvention et mettre en péril l'association, c'est-à-dire le projet. Militer pour la dignité des migrants peut n'être pas compris au point de se retrouver en position d'accusé par une opinion publique hostile, comme c'est le cas pour la CIMAD à Mayotte, où près de 50% des habitants sont des émigrés comoriens rejetés par les Mahorais. Aller au secours des naufragés en Méditerranée, c'est être accusé de faire le jeu des passeurs. Porter secours en montagne aux personnes migrantes qui passent la frontière au péril de leur vie est un délit. Et là se retrouve le vieux débat entre légitimité et légalité, ou celui de la désobéissance civile. C'est le débat des origines de la CIMAD et celui des thèses de Pomerol. C'est un débat éternel et c'est celui que liberté et vérité font surgir. À la CIMAD, nos interrogations sont nombreuses et constantes, pas tant sur les fins qui globalement rejoignent celles des origines du mouvement que sur les moyens où efficacité, éthique, vérité, capacité à faire sont au nombre des paramètres à évaluer. Être aux côtés des indésirables que sont aujourd'hui les exilés, défendre leur dignité, leurs droits, dénoncer les lois et les pratiques qui conduisent à l'exclusion et à l'humiliation, témoigner, proposer, interpeller pour faire changer le regard, sont nos objectifs et nos moyens d'action. Aujourd'hui, qui vise à faire advenir notre slogan « Il n'y a pas d'étrangers sur cette terre ». Il s'agit d'une conviction qui, de ce fait, ne peut admettre ni le doute, ni la preuve contraire.